Bienvenue dans Ondes Solidaires, le podcast de la Sécurité sociale qui donne la parole aux salariés en région pour une société plus inclusive. Ondes Solidaires est en Bretagne, cette fois à Rennes, en compagnie de l'URSSAF Bretagne, de la CPAM du Morbihan et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Dans cet épisode, nous allons parler de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour essayer de comprendre la chance que représente cette reconnaissance dans l'accès et le maintien au travail des personnes en situation de handicap. Population plus large que ce qu'on entend au premier abord, comprenant aussi les handicaps invisibles. Pour faire simple, un collaborateur qui ne se sent pas en possession de ses moyens à cause d'une pathologie peut y prétendre, gagner ainsi en confort de travail et surtout éviter que sa situation ne se dégrade, sachant que certains facteurs comme le stress et la montée numérique peuvent accentuer la vulnérabilité des personnes en situation de handicap. À suivre, dans la deuxième partie de notre épisode, on va plus loin et on se demande si en fin de carrière, cette reconnaissance pourrait également représenter un outil de lutte contre la désinsertion professionnelle. Michaël Moisan, c'est vous qui lancez notre épisode. Vous êtes donc référent handicap local pour la CPAM Ille-et-Vilaine et référent régional handicap pour la Bretagne. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On peut d'abord déjà préciser que le rôle de référent handicap, il est défini par la loi. C'est la loi, une loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit la désignation d'un référent handicap donc au sein de toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Concrètement, c'est une personne identifiée au sein de l'organisme, une personne de confiance qui va informer, orienter, accompagner les collaborateurs donc en situation de handicap ou en cours de reconnaissance. Le référent handicap, il organise aussi des actions d'information et de sensibilisation auprès des managers, du personnel. C'est un facilitateur. Il fait le lien entre les différents acteurs internes et externes. Et puis, bien sûr, il pilote les actions et les projets dans le cadre de la politique handicap de son organisme.
Mona Auffray, bonjour. Vous êtes responsable santé au travail, référente handicap à l'URSSAF Bretagne et référente territoriale handicap pour la Bretagne. Et alors Mona, la RQTH, qu'est-ce que c'est exactement ?
La RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est une décision administrative qui est prise par la MDPH, Maison départementale du handicap, donc une structure qui existe dans tous les départements. Et cette structure, en fait, accorde cette reconnaissance à condition que la personne présente au moins une dégradation liée à sa santé, qu'elle soit physique, sensorielle, mentale ou psychique, et que cette dégradation en fait diminue ses capacités à trouver un emploi ou garder son emploi.
Et alors, comment on fait pour l'obtenir de manière générale, dites-nous ?
La personne donc s'adresse à la MDPH de son département. Elle complète donc les formulaires qui sont en ligne. Elle complète d'elle-même la partie administrative et elle fait compléter la partie médicale par son médecin, que ce soit le médecin traitant ou le spécialiste. Et elle peut aussi demander l'appui du médecin du travail, si elle a un emploi, qui peut aussi argumenter pour qu'elle obtienne sa reconnaissance plus vite.
On a la chance d'avoir aujourd'hui pour cet épisode beaucoup de témoignages qui vont illustrer ce que vous nous dites. Et d'abord, justement, avec vous, nous parvient l'histoire de Julie. Vous allez nous la partager. Julie, salariée bretonne, qui après avoir subi les traitements contre un cancer du sein, en est revenue diminuée avec des problèmes physiques, une difficulté de concentration et dans l'obligation de poser des arrêts répétés. Expliquez-nous, Mona, comment Julie a été sensibilisée dans un premier temps à la demande de RQTH.
Julie a été atteinte d'un cancer alors qu'elle était très jeune, à peine 35 ans. Elle a été arrêtée, évidemment. Elle était gestionnaire de compte à l'URSSAF Bretagne, donc un emploi administratif. Et tout s'est passé pendant son arrêt de travail. Donc, elle a été mise en contact, évidemment, avec des médecins et l'assistante sociale de l'hôpital. Et donc, toutes ces personnes-là lui ont tout de suite parlé de la reconnaissance parce qu'on le sait peu, mais le cancer peut donner lieu à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, elle a eu l'information par ce biais-là. Et ensuite, ça a été tout un cheminement pour elle, parce que c'est pas forcément évident à entendre, surtout le mot handicap. Mmh. Et son entourage, qui était peut-être pas très bien informé sur le sujet, n'était pas très favorable, donc ne l'encourageait pas à le faire. Il se trouve que Julie était en contact toujours avec son manager pendant son arrêt de travail. Et son manager qui voyait dans l'entreprise comment ça se passait, les aménagements de poste qu'on mettait en place, comment on s'occupait des personnes qui avaient des problèmes de santé, avec ou sans la reconnaissance d'ailleurs. C'est elle qui l'a encouragée à le faire, en lui disant que quand elle pourrait revenir, parce qu'elle est quand même restée presque 3 ans en arrêt, quand elle pourrait revenir, elle en aurait certainement besoin.
Françoise Kéromès, merci d'être avec nous aussi. Vous venez du Morbihan, vous avez 60 ans. Toute une première partie de vie professionnelle dans le commerce, pendant laquelle vous avez travaillé en boutique, avec tout ce que ça nécessite comme manutention, travail du corps, travail des mains, à tel point que vous avez développé une rhizarthrose, c'est-à-dire une détérioration des mains qui vous a empêché de pouvoir continuer ce travail. Et c'est là que vous vendez votre activité et que vous vous retrouvez dans une impasse professionnelle et financière. À ce moment-là, Françoise, quelle est la première personne à vous informer sur la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ?
Je voyais régulièrement mon médecin, puisque j'avais des douleurs aux mains. Et donc, c'est le médecin, enfin, j'ai expliqué ma situation professionnelle, il m'a conseillé de monter un dossier maladie professionnelle et également un dossier pour demander la RQTH.
Vous êtes partante tout de suite, Françoise, pour cette idée ?
Oui, parce que pour moi, le handicap ne représente pas une connotation négative, on va dire. Et donc, moi, au contraire, je voyais ça comme une aide. Et je voyais pas du tout de souci à suivre le processus.
Pas d'hésitation. Et vous avez dit, je vous cite, « La RQTH ouvre la porte du monde professionnel et de l'emploi adapté immédiatement ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, votre démarche ?
J'ai fait la demande de RQTH début 2020, mais en fait, le processus est assez long. Et donc, ça a mis en gros un an avant que j'obtienne l'acceptation de la RQTH. Mon dossier a fait son chemin à la MDA. Donc, j'étais à cette époque... Tant que je n'avais pas reçu la reconnaissance qualité travailleur handicapé, j'étais suivie par Pôle emploi, qui essayait de me trouver des missions qui ne convenaient en fait pas trop à mon futur handicap reconnu.
Vous venez de parler de MDA. C'est quoi la différence avec la MDPH qu'avait évoqué Mona Offray juste avant ?
C'est le même établissement. Sauf que dans le Morbihan, donc on appelle la maison de l'autonomie, autrement c'est la maison départementale pour les personnes handicapées. Une fois que j'ai eu la RQTH en 2021, mon dossier a encore pris quelques mois avant d'être transmis à Cap Emploi.
Cap Emploi, qu'est-ce que c'est ?
Un peu la même chose que Pôle Emploi, sauf que c'est réservé, entre guillemets, aux personnes avec une RQTH, donc avec des personnes avec un handicap. Ils ont aussi des contacts dans un réseau d'entreprises et c'est ce dont j'ai bénéficié immédiatement. J'ai fait un CDD de 6 mois à la CPAM du Morbihan, donc tout s'est très bien passé. J'ai été avec une équipe et donc j'ai fait d'autres missions à l'URSSAF, à l'Agence régionale de santé. Et un jour, en mai 2023, j'ai été rappelée par la CPAM pour un poste en CDI. Et donc là, j'ai passé l'entretien de candidature. Donc j'ai été prise et je travaille maintenant au Centre national des soins à l'étranger, qui est rattaché à la CPAM du Morbihan. C'est un travail qui me plaît beaucoup sur les soins de personnes qui partent à l'étranger, en tourisme, des étudiants. De par mon parcours professionnel, j'ai aussi vécu à l'étranger. Vraiment, c'est un travail qui me convient très, très bien.
Et qui résonne particulièrement. J'allais vous demander comment vous vous sentez au sein de votre travail actuellement.
Très bien. Le matériel a été adapté là, donc, directement. Alors, non seulement donc, à la CPAM, mais aussi en télétravail. J'ai le même équipement. Donc là, c'est l'infirmière qui s'est occupée de faire la demande auprès de l'AGFIP et j'ai pu bénéficier du même matériel. Voilà, je me plais beaucoup dans ce travail.
Merci beaucoup Françoise. Sylvie Madec, vous travaillez à l'URSSAF Bretagne. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes manager et vous avez subi le diagnostic d'un cancer du sein à 55 ans en 2023, ainsi que les traitements attenants à cette maladie, c'est-à-dire chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie puis hormonothérapie. Et vous avez été en arrêt de travail pendant un an. C'est une infirmière que vous côtoyez, Sylvie, qui évoque le parcours de la carte mobilité inclusion. Pour vous, cette carte est donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça a une connotation plutôt positive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Quand on m'a proposé ça, c'était une infirmière conseil, m'a proposé, quand on rentre dans le cap de la maladie, on ne se rend pas compte, et elle vous propose ça, et comme on sait qu'on va être fatigué, on a besoin à un moment donné de notre vie d'avoir ce soutien, c'est comme une béquille, et je l'ai utilisé quelques fois, et depuis, ça va mieux, ouais.
Donc vous, c'est pas quelque chose qui vous faisait peur, hein, c'est ça, dans l'idée ?
Non, parce qu'au sein de mon entreprise, on fait très attention à ça, au handicap. Et j'ai des collaborateurs qui ont un handicap, visible ou invisible. Et on fait très attention à leur accueil et à la façon dont ils peuvent travailler au niveau du bureau. Donc du coup, j'ai aucun complexe par rapport à la carte inclusion. Je sais qu'il y a un bon accueil qui est réservé aux travailleurs handicapés.
Expliquez-nous, Sylvie Madec, dans quelle optique vous faites cette démarche d'obtenir justement cette RQTH et la carte mobilité inclusion ?
J'habite assez loin de mon travail, je suis à 3 quarts d'heure de route en voiture. Le fait d'avoir la possibilité de modifier mes horaires de travail, normalement en tant que manager, nous avons le droit qu'à 2 jours de télétravail et je vais demander d'avoir 3 jours de télétravail afin de pouvoir continuer mon activité sereinement. Et quand je vais sur site, nous avons accès à un parking souterrain proche du travail.
On dirait, Sylvie, que tout ça, c'est des choses que vous avez mis en place un petit peu par anticipation. C'est ça, c'est-à-dire que c'est en cas de besoin ?
Oui, en cas de besoin. Et je me suis aperçue au cours de mes soins qu'à un moment donné, la fatigue est là. Et pour pouvoir être sereinement continuer mon activité, j'ai préféré faire ça. Ouais.
Au moment où vous le faites, cette démarche, elle est rassurante ?
Au moment où je fais cette démarche, c'est suite au conseil. Peut-être que je me rends pas trop compte l'intérêt de la place de parking, mais au fur et à mesure, je constate que c'est très utile. Ouais.
Merci beaucoup Sylvie Madec. On vous retrouve en deuxième partie pour la suite de votre témoignage. Aurélie Baudet, vous êtes directrice adjointe à la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Vous avez eu un cancer du sein consécutif à la radiothérapie que vous avez subie pour traiter 2 cancers précédents. Vous subissez un handicap invisible, c'est-à-dire de la fatigue et des douleurs. Votre médecin conseil évoque une invalidité et ce terme est rude à encaisser pour vous, rude à vous approprier. Et puis, petit à petit, le chemin se fait dans votre tête et vous demandez la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en préventif. Même si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, vous vous dites que si vous avez des difficultés plus tard, vous pourrez l'activer et c'est rassurant. Alors, au moment de remplir ce questionnaire de demande de RQTH avec l'aide de votre médecin traitant, Aurélie Baudet, est-ce que vous sentiez une légitimité à effectuer cette démarche ?
Je me sentais totalement légitime à la faire. La notion d'invalidité a été vraiment très difficile à recevoir pour moi. Je n'étais pas en capacité d'entendre cette notion d'invalidité, d'autant que je voulais reprendre le travail, a fortiori à temps complet. Donc, il n'était pas question en fait, d'aller sur ça. Là, pour le coup, ça ne m'aurait pas correspondu. Alors, mon entourage m'avait plutôt déconseillé de faire cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, parce que ça a toujours une connotation dans le monde du travail qui peut être difficile à porter, difficile à entendre. Mais moi, c'est quelque chose de vraiment très important. J'ai été malade, ça me correspond, c'est ma vie, je suis faite avec ça. Et je trouve au contraire que c'est un signal important à envoyer à la fois auprès de son employeur, mais aussi des collaborateurs avec lesquels je travaille. J'ai été malade, ça fait partie de moi et cette RQTH fait partie de moi. Ça me permet d'avoir un aménagement si jamais j'en avais besoin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de vraiment qui a été important à porter.
On sent à vous écouter que ça fait partie de votre parcours, vous le dites, on sent que c'est complètement assumé, que c'est même presque constructeur pour vous. Ça se rapproche pratiquement d'un acte militant, cette demande de RQTH, on a l'impression, comme un message à véhiculer. Expliquez-nous votre point de vue.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une forme d'acte militant. Je veux dire, beaucoup de personnes sont malades. On n'a pas choisi d'être malade. C'est des choses qu'on subit. Et en fait, c'est aussi d'aller vers de la résilience quelque part, en se disant, j'ai subi ça, je me l'approprie. et puis j'en fais quelque chose de positif. Parce que la maladie, c'est quelque chose de compliqué. Quand on revient dans le monde du travail, on revient dans la vraie vie. Et donc, après tout, moi, j'ai le droit d'avoir une vie comme les autres en ayant un parcours qui est différent des autres. Parfois un peu chaotique, certes, avec des conséquences dans mon quotidien qui peuvent être pas simples à gérer. Mais je pense que c'est un message que je veux vraiment véhiculer en disant c'est pas parce qu'on a été malade qu'on peut pas avoir une vie professionnelle bien remplie et comme les autres, en adaptant de temps en temps son poste de travail. C'est vraiment un acte militant important pour moi et qui quelque part m'a aidé à construire, à revenir au travail.
Et vous avez l'impression d'avoir un petit peu une valeur un peu exemplaire?
C'est un terme un peu fort, mais c'est au moins être porteuse d'un message en disant oui, la maladie, c'est quelque chose qui est dévastateur pour soi, pour son entourage. Mais ça peut être aussi possibilité de se reconstruire ou de se re-questionner sur ce que l'on veut et le sens que l'on veut donner à son quotidien et à son travail.
Merci beaucoup Aurélie Baudet. On vous retrouve tout de suite après dans la deuxième partie de l'émission. On a maintenant une idée plus claire de ce moment de bascule que représente la RQTH qui nécessite prise de conscience, objectivité, lucidité et envie d'améliorer une situation qui devient compliquée au travail ou bien qui rassure au cas où elle deviendrait plus compliquée. On comprend aisément que c'est souvent pendant la deuxième partie de la vie professionnelle qu'adviennent davantage les pathologies et les problèmes de santé. Et c'est aussi un moment où les travailleurs ont peut-être plus de responsabilités au sein de leur activité professionnelle et donc plus d'hésitation à communiquer sur leur vulnérabilité. Est-ce que cette déclaration pourrait servir à prévenir les arrêts de travail et la désinsertion professionnelle ? Rodrigue Lehoux, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous travaillez à l'URSSAF Bretagne Quimper. Vous êtes non-voyant depuis votre naissance. Vous avez obtenu un BEP comptabilité et pratiqué une formation en télémarketing au métier de téléconseiller. En 1996, la demande RQTH est automatique pour vous et vous allez vous heurter à plusieurs expériences de rupture conventionnelle avec des entreprises qui n'ont pas les moyens d'adapter votre poste de travail. Puis, en 2021, lors des Duo Days, ce dispositif national qui favorise un rendez-vous annuel entre une entreprise et une personne en situation de handicap sans emploi, vous rencontrez l'URSSAF Bretagne et 4 mois plus tard, vous êtes recontacté par Mona Auffray, qu'on vient d'entendre ici, qui a déjà pris les dispositions pour adapter un poste à votre mesure. Vous obtenez un CDD, puis vous obtenez un CDI. Rodrigue, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes embauché avec un poste adapté après ces années difficiles?
Alors déjà, une grande surprise. Je ne m'attendais pas, au bout de 4 mois, après cette journée du Haudet, que l'URSSAF, donc, m'appelle, me contacte pour me dire qu'un poste est donc allé être mis en place. Ça a été donc déjà une grande surprise, un grand bonheur également, parce que c'est vrai qu'après 3 ans d'inactivité professionnelle, moralement, c'était dur, que ce soit pour moi ou également pour ma famille. Et c'est vrai que le fait d'avoir trouvé donc cet emploi au sein de l'URSSAF me rend fier déjà. Rend fier également, comme je disais, mon épouse, ma famille, mes enfants surtout. Voilà, j'ai 2 petits-enfants qui sont très fiers de dire que papa travaille à l'URSSAF.
Merci de votre témoignage. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente pour vous, cette déclaration RQTH?
La reconnaissance de qualité de travailleur handicapé est une aide absolument importante. La demander déjà est très important et ça nous ouvre des portes vraiment au niveau des entreprises parce que justement, comme disait Mona Auffray, les entreprises, suite à cela, ça leur ouvre des portes pour avoir soit des financements pour un poste de travail, d'avoir des interlocuteurs pour accompagner également la personne en situation de handicap. Parce que c'est vrai qu'une personne en situation de handicap, un collaborateur en situation de handicap, enfin, il faut savoir comment l'accompagner. Il faut avoir les mots, il faut être bien conseillé et bien accompagné. Et je crois que la RQTH est vraiment très importante pour ça.
Et alors pour vous, Rodrigue, ça a été le sésame pour trouver un emploi et aussi pour le garder?
Ah oui, tout à fait. Parce que grâce donc à la RQTH, l'URSSAF Bretagne a pu mettre en place un poste de travail. Donc ce poste de travail, le coût est élevé, donc c'est une aide. Et c'est vrai que cette RQTH, par rapport à l'évolution qu'on peut avoir dans notre handicap, permet justement au fil du temps d'améliorer justement notre poste de travail. Et de rester bien sûr au sein de l'entreprise, ce qui est très important.
Pour vous, la RQTH, Rodrigue, c'est facile de l'utiliser. Comment vous vous placez à ce niveau-là?
Moi, je suis non-voyant depuis ma naissance. Donc, je vis avec mon handicap depuis bientôt 50 ans. Voilà, vous savez mon âge maintenant. Et donc, pour moi, ça a été facile. Mais c'est vrai qu'une personne qui, d'un seul coup, va avoir sa santé se dégrader, donc avoir des difficultés dans le cadre professionnel, c'est vrai que de demander cette RQTH peut être difficile. Se dire, voilà, mais non, je deviens handicapé. Le but n'est pas de se dire qu'on devient handicapé ou qu'on est en situation d'handicap, c'est se dire que la RQTH est un sésame qui va ouvrir des portes au niveau des entreprises et qui va nous permettre donc d'avoir soit du matériel, soit des aides financières, soit des accompagnements auprès de l'entreprise où on travaille ou une future entreprise, et ce qui va nous permettre justement de garder notre poste de travail.
Et par rapport à votre employeur, comment vous vous présentez ?
Quand on arrive devant un employeur, c'est vrai que l'handicap de la non-voyance, honnêtement, se voit tout de suite, si je puis dire. L'employeur, normalement, sait qu'on a déjà une RQTH ou qu'on est censé avoir une RQTH. Mais moi, ce qui est important, quand je rencontre une entreprise, quand j'ai un entretien d'embauche, ce n'est pas mon handicap d'abord, c'est mes compétences d'abord. C'est moi, je suis Rodrigue, je suis telle personne, j'ai telle compétence. Et après, une fois que j'ai parlé de mes compétences, là, on parle avec le recruteur ou le futur recruteur donc, de qu'est-ce qui est possible de mettre en place donc, dans le cadre de mon handicap.
Merci beaucoup, Rodrigue. Françoise Caromès, on vous a écouté en première partie. Qu'est-ce qui se serait passé pour vous sans reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ? Vous qui vous êtes retrouvée dans l'incapacité physique d'exercer votre précédent métier à l'âge de la cinquantaine et dans une impasse financière.
Déjà, je voudrais dire aussi que je suis très reconnaissante à la CPAM. Mais à la sécurité sociale en général. J'ai beaucoup travaillé dans le privé avant, j'ai travaillé dans le petit commerce et je me rends compte des efforts qui sont faits par cet organisme qui essaye de vraiment être précurseur et de développer des aides pour justement, dans ce cas, les gens en situation de handicap. Donc bravo, un grand bravo à cet organisme. Donc dans mon cas, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé, qui a toujours beaucoup travaillé. Si je n'avais pas eu cette aide, je pense qu'à un moment donné, j'aurais réessayé, comme j'avais fait par le passé, de créer mon propre emploi. Mais c'est très, très difficile. Donc, on est arrivé à 60 ans, on n'a pas forcément la même énergie que quand on est plus jeune. Je ne me voyais pas, en tout cas, arrêter ma vie professionnelle. Donc, ça jouait forcément sur mon mental et le côté psychologique, y compris pour ma famille.
Votre santé mentale, c'est ce que
tout
vous dites.
Tout à fait, oui.
Donc, beaucoup de gratitude.
Ah oui, 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 énorme.
Merci, Françoise.
Merci.
Sylvie Madec, on vous retrouve. Vous avez 57 ans. Est-ce que votre projection professionnelle, vos envies professionnelles ont changé depuis la maladie ?
Oui, mes projections ont changé. Avant la maladie, je souhaitais changer de niveau, devenir un manager expert. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai repris en mi-temps thérapeutique et après un autre temps partiel thérapeutique. Et du coup, je souhaite pouvoir amener ma mission à bien avec la maladie.
C'est ce qui compte pour vous maintenant, c'est ça ?
C'est ça, oui. L'important, c'est que je puisse continuer mon travail dans les meilleures conditions.
Et c'est ce que la RQTH promet, selon vous ?
La RQTH me permet de travailler dans les meilleures conditions, en augmentant du télétravail si besoin et en adaptant mon poste de travail si j'ai besoin.
Si cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé n'existait pas dans votre entreprise, comment ça se passerait pour vous ? Vous avez une idée ?
Pour moi, ça serait beaucoup plus stressant de travailler sans avoir un soutien de la RQTH.
Merci beaucoup Sylvie Madec.
Merci.
Aurélie Baudet, de votre point de vue de manager, quelles sont les retombées de ce qui vous est arrivé sur vos collaborateurs, selon vous ?
Alors, je suis non seulement manager, mais en plus, je suis directrice adjointe en charge des ressources. Et donc, je m'intéresse particulièrement aux ressources humaines. Donc, forcément, mon parcours me permet de comprendre aussi ce que certains de nos collaborateurs vivent. On a beaucoup de collaborateurs qui sont atteints d'une maladie grave, qui maintenant sont des maladies graves qui sont très bien traitées. Et donc, tout l'objectif, c'est qu'ils puissent revenir au travail dans de bonnes conditions. Donc, quelque part, moi, c'est une valeur à laquelle je tiens, de pouvoir réaccueillir les personnes sur le lieu de travail en tenant compte de ce qu'ils ont vécu, de leur maladie et en aménageant leur poste de travail. C'est des personnes tout aussi compétentes que vous ou moi. C'est juste qu'elles ont eu un accident de parcours de vie, d'une maladie grave. Et probablement, c'est aussi d'en tirer le meilleur. C'est pas que négatif, on revient pas qu'avec des choses difficiles d'un point de vue physique, mental. Il y a aussi du positif dans la maladie, donc ça me sert dans mon quotidien pour aussi accompagner ces personnes et avoir un regard bienveillant sur le fait qu'il faut leur tendre la main quand ils veulent revenir au travail.
Ne pas voir seulement justement leur fragilité, c'est un peu ce que vous dites.
Oui,
ça... On revient peut-être plus fort aussi.
On revient parfois affaibli physiquement, mais mentalement, il y a des choses qui se sont construites. On avance, alors peut-être pas 6 mois après la fin de la maladie. Parfois, il y en a qui sont métastasés, qui vivent avec un cancer, par exemple, sur le long terme, mais ça donne une force et ça développe des compétences au-delà de la sphère professionnelle. Et ça, c'est un message que je souhaite véhiculer. On peut capitaliser aussi sur ces aspects-là, tout en tenant compte des fragilités, y compris physiques, que la personne peut avoir, parce que les traitements sont lourds, la concentration n'est pas simple, parce qu'on est fatigué, et faire comprendre aussi que ça ne se voit pas forcément.
Et donc, aménager justement pour que ces difficultés physiques soient bien prises en compte, bien prises en charge, pour laisser la personne s'exprimer et faire son travail de la meilleure façon, en fait. Hein.
Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est en cela où la reconnaissance de la qualité du travail handicapé, si je me place du côté employeur, elle a aussi cette vocation de permettre le dialogue à la fois avec les ressources humaines, mais également avec le manager. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas communiquer sur la RQTH côté manager, je le comprends complètement. Mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est un outil qui nous permet d'avancer et d'accompagner la personne au plus tôt lorsqu'elle revient.
Justement, vous dites au plus tôt, donc le plus tôt pour cette demande est le mieux. Expliquez-nous comment cela retarde la désinsertion professionnelle quand c'est pris justement le plus tôt possible.
En fait, la RQTH, si elle est formulée pendant l'arrêt de travail, pendant que la personne elle est en cours de traitement, ça permet déjà à la personne de cheminer, et ça c'est quand même pas rien, je vous l'ai expliqué pour mon cas tout à l'heure, mais ça permet aussi de continuer à vivre professionnellement tout en ayant des adaptations. Et plus tôt on a connaissance de ces adaptations côté employeur, plus tôt on peut les mettre en place, mieux c'est, et plus on peut en discuter, y compris en amont avec le manager. On a eu des personnes qui ont refusé, en fait, soit d'avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, soit de nous en parler. Et en fait, on était complètement fragilisés et proches, en fait, de se séparer de la personne parce qu'on ne savait pas comment adapter son poste de travail. Or, si on a les informations suffisamment tôt, ça nous permet de discuter avec le médecin du travail, avec le manager, peut-être également pour le manager de communiquer avec l'équipe. C'est quand même pas simple. On a des personnes qui reviennent, qui n'ont pas la même concentration, qui n'ont pas la même capacité de travail, la même capacité cognitive. Il faut qu'on puisse faire passer ces messages-là aux équipes.
Pour le bien-être finalement de tout le monde et pour garder les gens au sein de l'entreprise, tout simplement.
L'objectif, c'est effectivement de maintenir les personnes dans l'emploi. Il y a des fois, on ne peut pas autrement parce que la personne, elle a un affaiblissement physique, voire psychique tellement important qu'il faut qu'elle change son chapitre de vie. Mais il y a des pages qui peuvent ne pas se refermer. Il y a des pages professionnelles que l'on peut poursuivre. Le maintien dans l'emploi, c'est fait partie des valeurs de la sécurité sociale. Si on ne peut pas les porter dans nos organismes, moi, c'est quelque chose pour lequel je ne me retrouverai pas. Donc, je suis à la fois concernée, mais je suis aussi manager, je suis aussi directrice adjointe des ressources. J'ai cette capacité-là à dire, on va trouver des solutions quand c'est possible pour vous maintenir dans l'emploi, avec vos spécificités et vos compétences.
Merci beaucoup Aurélie Baudet d'avoir répondu à mes questions pour cet épisode consacré à la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Merci à vous.
C'est la fin d'Ondes Solidaires, le podcast de la Sécurité sociale. Merci d'avoir écouté les acteurs de terrain engagés en faveur de l'inclusion et rendez-vous dans une autre région au prochain épisode.